Bien, bonjour à tous. J'espère que la nuit vous a permis de récupérer, puisque la matinée et jusqu'en début d'après-midi va rester dense et chargée. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous donc Denis Robillard, qui est assis ici, qui a accepté, et on l'en remercie, de présider cette journée. Donc, comme je l'ai indiqué, il ne s'agit pas uniquement de participer à la table ronde. Pardon ? C'est bon ? Ah, c'est mieux. Donc, ça signifie qu'il est à même, je veux dire, autorisé, entre guillemets, à intervenir sur tout sujet. C'est-à-dire aussi que la règle du jeu, c'est que vous pouvez l'interpeller. Bien que le sujet, à la différence, là encore, d'hier soir, ne soit pas ce matin celui des GHT, pour faire écho à ce qu'on s'est dit hier. Voilà. Et qu'on est peut-être moins directement sur les sujets sur lesquels vous êtes, au titre des travaux parlementaires, intervenus et amenés à intervenir. Mais je crois qu'à travers votre rapport et les échanges qu'on avait pu avoir, la question de l'évolution des compétences et des savoirs nous met tous en question et en questionnement et parfois en difficulté. C'est aussi pour ça que je vous avais proposé de participer à nos travaux. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de la recherche, puisqu'on va redémarrer sur cette thématique. D'ailleurs, je ne suis pas sur la bonne page. Donc, j'ai expliqué hier que les contraintes d'agenda, et c'est logique, de nos intervenants nous avaient amené à séquencer sur les deux journées certaines thématiques. Donc, hier, on a eu au moins directement des focus sur la recherche, et puis Thierry Bougerolles, donc PUPH au CHU de Grenoble, nous a fait un panorama général de la recherche et il a effectivement évoqué des initiatives en cours ou des réalisations plus anciennes comme la vôtre. Et donc ce matin, on réalise une première séquence sur, en gros, ce qui existe en région. Or, soit qu'on soit sur des modèles plus aboutis, plus installés, hein, puisque la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale du Nord-Pas-de-Calais, donc docteur Martine Lefebvre, est présidente du conseil d'administration et est une réalisation plus ancienne,
2007. Je
pense, précurseur en la matière. On sait qu'ensuite, d'autres initiatives ont été prises, en particulier récemment par la conférence nationale des présidents de CME de CHS, et qu'on nous présentera donc par la suite, via Catherine Pasquier, le docteur François Olivier, l'initiative plus récente qui est en cours de mise en œuvre en Midi-Pyrénées, au même titre qu'on commence à en trouver dans d'autres régions. Alors, je ne vais pas me faire plus pesant en introduction. On vous remercie d'avoir bien voulu
plaisir.
Nous présenter cette réalisation et on vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, d'emblée, je prie ceux qui ont déjà entendu mon discours de excuser. C'est le principe des vieilles dames, elles radotent. Donc, je vais essayer de vous parler de façon courte, parce qu'il est certain que ceux qui me connaissent savent que quand je parle de la fédération et de la psychiatrie en général, il est beaucoup très difficile de m'arrêter. Alors, pourquoi la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale ? Vous voyez qu'elle s'appelle F2RSM. Nous avons rajouté, parce que c'était évident pour nous, mais nous ne l'avions pas mis dans l'acronyme, mais nous avons, depuis quelques 3 ans exactement, rajouté psychiatrie et santé mentale, parce que nous avons eu à un moment, au niveau de l'Agence régionale de l'hospitalisation, une certaine tendance à oublier la psychiatrie. Et si la santé mentale est très importante, la psychiatrie l'est aussi. Donc nous disons toujours, quand nous évoquons, Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale. Alors, pourquoi cette fédération ? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu la chance de 97 à fin 2005 à être chargée au sein de la RH Nord-Pas-de-Calais de la restructuration de la réorganisation, tout ce qu'on veut, de la psychiatrie régionale dans le Nord-Pas-de-Calais. Et nous avons eu la chance que le premier directeur de la RH, qui est resté quand même 6 ans, ait fait de la psychiatrie une priorité, et c'était très important, une priorité régionale au même titre que les pathologies cardiovasculaires et la cancérologie. Pourquoi c'était important ? Parce que pour ceux qui étaient en poste, vous savez qu'à partir de 1997, il y avait eu une péréquation interrégionale et que compte tenu de ces indicateurs, la région Nord-Pas-de-Calais avait bénéficié effectivement d'une péréquation positive. Et il était très important, si vous voulez, que la psychiatrie ait fait partie des priorités, puisque ça nous permettait effectivement d'avoir, pour les établissements, d'avoir un peu plus d'argent et d'avoir un certain budget pour pouvoir réorganiser et aussi naturellement pour l'investissement, puisque entre 1997 et 2005, grosso modo, pratiquement tous les services quand je dis service, c'est à la fois les unités d'hospitalisation complète, mais aussi les alternatives à l'hospitalisation ont bénéficié d'une rénovation immobilière. Donc, et quand le premier volet psychiatrique du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Nord-Pas-de-Calais a été signé, en juillet 1999, il y avait effectivement comme objectif la mise en place... excusez-moi, alors là, c'est toujours la même chose. Voilà. La mise en place d'une fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale. C'est vrai que ce premier volet avait d'emblée, dès nous y étions attelés, dès le mois de mai 1997, avait été élaboré avec les acteurs de terrain, c'est-à-dire à la fois les directeurs, les psychiatres, mais aussi l'UNAFAM, puisque à l'époque, dans la région Nord-Pas-de-Calais, il n'y avait pas d'association représentative de la FNAPSI. Nous avons travaillé ensuite, à partir de 2002, avec une association représentative, mais nous avons travaillé avec vraiment tous les acteurs de terrain. Et donc, l'un des objectifs de ce volet était la mise en place d'une fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale qui n'allait pas naturellement être en opposition avec la recherche fondamentale qui reste naturellement l'apanage du CHU, mais qui était complémentaire. Et comme le dit souvent le professeur Thomas, actuel président du CNUP et qui est président du conseil scientifique de la fédération, il s'agissait d'une certaine manière d'aller de la paillasse au terrain, et la partie, j'oserais dire, terrain manquant dans la région. Donc, pourquoi aussi avons-nous voulu cette fédération de recherche à vocation, dans un premier temps, épidémiologique ? Parce que nous sommes aperçus que pour avoir une réponse adaptée aux besoins, eh bien, nous disposions de très peu de données épidémiologiques. Il fallait pour l'essentiel partir, si vous voulez, d'extrapolation de données qui étaient, ou d'études qui étaient pour l'essentiel nord-américaines ou scandinaves. Et ce n'était pas satisfaisant, finalement, de partir de données scandinaves pour aller chercher les besoins de Maubeuge ou de Douai. Alors, 99 et l'Assemblée constitutive apparaît en 2006. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous savez qu'à l'époque, la priorité avait été les contrats d'objectifs et de moyens, et la région Nord-Pas-de-Calais, si vous voulez, a négocié la totalité des établissements des contrats d'objectifs et de moyens. Donc, nous avions remis un peu plus tard cet objectif. Et surtout, après, nous avons eu, malheureusement, entre guillemets, le départ de ce directeur de l'ARH, et son successeur était beaucoup moins attentif aux problèmes de psychiatrie et de santé mentale. Il ne croyait pas à cette fédération, il me disait ça n'arrivera pas. Bon, moi après, pour des raisons d'incompatibilité d'humeur, entre lui et moi, j'ai quitté l'agence, donc il a fallu quand même, si vous voulez, retravailler, et on a continué à travailler par les réseaux qu'on pouvait avoir pour que cette fédération apparaisse. Donc, Assemblée constitutive novembre 2006 et un arrêté préfectoral d'août 2007. Alors, la fédération, c'est quoi ? Eh bien, c'est un groupement d'intérêt public. C'est la formule juridique que nous avions choisie à l'époque parce qu'elle nous permettait d'intégrer la totalité des établissements, y compris les établissements privés, parce qu'à la base, c'était ça. C'était une recherche qui associait la totalité des acteurs de la psychiatrie, qu'ils soient privés, publics, ESPIC, pour cette recherche. Donc au jour d'aujourd'hui, et très rapidement d'ailleurs, dès le départ en 2007, nous avons eu la totalité des établissements qui ont une activité de psychiatrie. Au fil du temps et des nouvelles créations d'établissements, ces établissements ont adhéré. Donc nous avons aujourd'hui 34 établissements, qu'ils soient publics, privés à but lucratif ou à but non lucratif, qu'ils soient spécialisés ou non, EPSM, CAG, la région Nord-Pas-de-Calais a cette originalité que pratiquement 60% des secteurs sont rattachés à des hôpitaux généraux, hein, donc si vous voulez, CAG, mais aussi des cliniques, hein, cliniques privées ou cliniques ESPIC, on en a parlé d'une ce matin, et également une clinique de post-cure gérée par une association. Et bien sûr, les services universitaires en sont adhérents. Ils en sont adhérents au même titre que les autres. J'oserais dire que, si vous voulez, l'hôpital de jour de 15 places, qui est dans le fond du Maubeugeois, a autant, si vous voulez, à dire, à proposer que les services universitaires, même si, naturellement, ils sont très présents dans le conseil scientifique. La recherche est ainsi à l'initiative des acteurs de la psychiatrie dans leur ensemble.
les psychiatres, les infirmiers, les psychologues, les internes, mais aussi les directeurs. Un des projets de recherche que nous avons lancé sur la prise en charge somatique du patient psychiatrique était à l'initiative d'un directeur d'hôpital qui a dit, moi, je voudrais bien savoir, quand même, dans mon établissement, on me demande de ceci, cela, des vacations, des consultations, et je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Et c'est à son initiative que nous avons lancé ce programme. Bien sûr, les usagers et familles d'usagers, qui, je vous le dis, sont présents depuis le départ, et en particulier l'UNAFAM. Nous avions eu la chance, dans les années 97, d'avoir comme délégué régional de l'UNAFAM le professeur Eskeg, et il était, lui aussi, naturellement, c'était un professeur de physique appliquée à Lille 3, et il était très, très intéressé par tout ce qui était recherche. Alors, elle est autonome financièrement et indépendante pour ses travaux. Alors ça vous paraît peut-être, si vous voulez, peut-être étrange que quelqu'un qui a passé 8 ans en tutelle vous dise il y a une totale autonomie par rapport à la tutelle et par rapport à l'ARS, mais c'est quand même la réalité, et je pense que c'est très important. Pour autant, naturellement, nous faisons des études pour des travaux pour l'Agence régionale de santé, comme nous faisons pour d'autres institutions. Nous l'avons fait pour le RSI, qui a été un des tout premiers à nous solliciter. Mais le budget repose sur les cotisations des adhérents. Hein, et ça, naturellement, quand on adhère à la fédération, on paye sa cotisation. Bon, c'est aussi, si vous voulez, pour les établissements au jour d'aujourd'hui, un gage d'indépendance et, bien sûr, la rémunération de travaux. Mais je peux vous dire que si vous demandez un travail à la fédération, ça vous reviendra souvent moins cher que si vous la demandez à la SANESCO. J'espère qu'il n'y a pas de représentant de la SANESCO dans la salle. Nous avons pu signer dès 2007, c'est-à-dire dès la création, des conventions avec les directions des services médicaux, des régimes d'assurance maladie, et nous pouvons ainsi, et ça c'est fondamental, accéder aux bases de données de ces services. Naturellement, quand nous avons eu une commande en disant, bon, sur le secteur de Roubaix, quelle est la consommation, si vous voulez, de médicaments de substitution, c'est pour notre personnel qui naturellement est formé de façon ad hoc, si vous voulez, c'est très facile parce qu'ils accèdent à toutes les données de l'assurance maladie, quels que soient les régimes. Alors les instances, eh bien, c'est très simple. Un conseil scientifique qui propose, qui est donc présidé par le professeur Thomas, et qui réunit à la fois des psychiatres, mais aussi les infirmiers. Les cadres infirmiers ont été d'emblée extrêmement partants et actifs. Et nous avons pu créer, d'ailleurs, depuis septembre de cette année, un groupement régional de recherche infirmière en psychiatrie. Hein, donc on est vraiment dans la dynamique de ce que veut aujourd'hui le ministère. Nous avons un conseil d'administration qui décide, conseil d'administration paritaire, hein, 9 représentants des présidents de CME. Lorsqu'il s'agit d'un CAG où le président de CME n'est pas un psychiatre, naturellement, s'il le souhaite, hein, il délègue au chef de pôle de psychiatrie, et 9 représentants des directeurs. Je suis, moi, au niveau de la fédération, en tant que représentant, parce que j'ai été pendant très longtemps conseiller médical de la direction générale d'un groupe ESPIC, je suis donc au titre, si vous voulez, administratif. Une équipe qui met en œuvre, et vous allez voir que l'équipe est très réduite, et une assemblée générale, naturellement, qui surveille, hein, qu'on respecte bien la volonté des adhérents. L'équipe de permanent est volontairement très restreinte. Un directeur à mi-temps, psychiatre, HDR, bon, qui est par ailleurs, si vous voulez, au niveau du CHU, responsable du service d'addictologie. Une assistante de direction à temps plein. Une attachée de presse et une chargée de communication à temps plein. Ça a été fondamental dès le départ, le recrutement. Pourquoi ? Si vous regardez la région Nord-Pas-de-Calais, elle est extrêmement étendue. Ça voulait dire qu'il fallait que le site Internet soit alimenté au fil de l'eau. Ça voulait dire que tout ce que nous organisons au niveau journée scientifique, demi-journée scientifique, etc., puisse être connu, informé, etc., de façon régulière. Nous avons eu une journée scientifique il y a à peu près un mois. Nous avons réuni plus de 500 personnes. Venant d'ailleurs pour certains de Picardie, pour d'autres venant de Belgique, vous verrez après pourquoi, dans les 10 jours, toutes les interventions étaient en ligne. Et c'est fondamental. Et si vous allez sur le site de la fédération, vous allez sur Google, vous tapez santé mentale 5962, nous arrivons en premier, vous allez voir que toutes les interventions diverses et variées, que ce soit pour les demi-journées, pour les journées, pour les espaces de réflexion éthique, les travaux, les publications, les recherches, etc., tout est en ligne. C'est fondamental pour que, effectivement, tous les partenaires, tous les adhérents aient en temps réel, au fil de l'eau, tout ce qu'il se passe, même s'ils n'ont pas la possibilité de participer. Donc ça, on a la chance d'avoir pu recruter une attachée de presse qui a un réseau extrêmement important. Et ça, c'est vraiment, vraiment, c'est fondamental, si vous voulez créer quelque chose dans vos régions, d'avoir ce type de personnel, parce qu'autrement, les liens ne se font pas suffisamment au jour d'aujourd'hui. Et, pardon, j'ai oublié, deux sociodémographes qui sont naturellement les chevrilles ouvrières. Et donc, vous voyez, un très, très réduit, 4,6 personnes au total en équipe de permanents. Mais l'équipe est renforcée pour chaque projet par des professionnels venant des établissements adhérents. Ce peut être des psychiatres sur des demi-journées d'intérêt général. Ce peut être des cadres infirmiers ou des infirmiers, naturellement avec l'accord de leur directeur, qui sont intéressés à travailler pendant une durée définie sur un projet spécifique. Ou alors, comme nous faisons l'évaluation du programme national Un chez soi d'abord, comme nous avons aussi l'évaluation du programme Vigilance, nous recrutons des CDD avec des profils qui correspondent à ce dont nous avons besoin. Nous sommes aussi terrain de stage, bien sûr, pour les internes de santé publique, pour les internes de psychiatrie, pour les étudiants en master de sociologie et en éducation spécialisée. Nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, 4,6 équivalents temps plein en permanent, mais grosso modo, nous faisons entre 14 et 15 fiches de salaire pratiquement tous les mois, mais avec des gens qui sont de façon pour une durée déterminée. Alors, les missions. La fédération valorise et rend disponible l'information sur l'état de santé et les besoins de la population régionale. C'était quand même, si vous voulez, sa première mission. Traitement et analyse de données sanitaires au sein de l'Observatoire régional de la santé mentale. Ça représente grosso modo 60% de notre activité. Là, sous la responsabilité de Laurent Planck, que certains ont parfois entendu, qui est sociodémographe, nous avons élaboré des indicateurs. Nous avons actuellement 140 indicateurs qui sont regroupés en 6 thèmes, 22 tables, et qui sont documentées sur 6 zonages territoriaux. Alors, ça sert à quoi ? Un établissement adhérent, un EPSM, voulait refaire son projet médical. Il avait besoin de données, si vous voulez, démographiques, socio-économiques, consommation de médicaments traceurs, etc., etc. Il est adhérent. Il nous demande, nous faisons le travail. Il ne paye que les frais de déplacement, éventuellement, des personnes. Donc, naturellement, très intéressant pour un adhérent, au lieu de devoir faire appel à un cabinet extérieur. Bon. Bien sûr, valorisation de l'information et diffusion sous forme de rapports, de documents, de tableaux de bord qui sont téléchargeables. Dès 2008, nous avons sorti, ce qui était tout à fait novateur dans la région Nord-Pas-de-Calais, un atlas de la psychiatrie et la santé mentale à la région Nord-Pas-de-Calais. Vous verrez, si vous allez sur le site, vous tapez le secteur intéressé, par exemple, qu'est-ce que je vais dire, le G18 qui correspond à Tourcoing à Loing, vous allez avoir les données sociodémographiques, le nombre de personnes selon les diplômes, le nombre de bénéficiaires du RSA, les consommations de certains médicaments traceurs, si vous avez des populations qui sont essentiellement des familles monoparentales, etc. Vous avez tout ça. Et ensuite, naturellement, on peut descendre sur d'autres indicateurs plus spécifiques de la psychiatrie. Donc tout ça, vous allez retrouver sur le site Internet et c'est téléchargeable par vous. Vous en avez besoin, vous téléchargez. Ensuite, bien sûr, nous avons des communications lors de colloques qui sont internationaux, nationaux ou régionaux et des publications scientifiques. Bon, vous en avez mis quelques-uns, si vous voulez. J'en ai apporté 2 ou 3. Nous avons fait une monographie sur le suicide, une monographie sur tout ce qui est novateur, parce que je pense que pour notre région, qui effectivement a des problèmes, si vous voulez, en termes d'indicateurs, mais qui est aussi terre d'innovation, et je suis quand même très, très attachée, et c'était important aussi de faire voir tout ce que nous avons pu ou initier par nous-mêmes, ou, si vous voulez, décliner très rapidement de programmes nationaux. Nous avons fait aussi une monographie sur les adolescents. Enfin, vous voyez, tout est accessible sur le site Internet, même si naturellement, ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, vous avez là enfants et adolescents en région Nord-Pas-de-Calais, les conduites suicidaires dans les régions Nord-Pas-de-Calais, là aussi avec des données qui pourront alimenter votre réflexion pour un éventuel projet médical. Et là, c'est ce que je vous disais, un nouveau visage pour la psychiatrie et santé mentale, c'est-à-dire tout ce qui est novateur dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, elle valorise aussi le partage d'expériences et l'enrichissement des connaissances. Nous avons mis en place, dès le départ, ce qu'on appelle des audits croisés inter-établissements. Bon, et ça, ça avait, quand j'avais été discutée avec le ministère, ça les avait beaucoup étonnés. C'est-à-dire, là, ce sont véritablement les cadres infirmiers qui se sont emparés de ce champ. Vous avez un binôme, je veux dire un binôme de l'EPSM de l'agglomération lilloise, qui, sur un thème donné, naturellement, il y a toute une étude préalable avec une grille d'items, etc., etc., donc une formation aussi de ces personnes. Et ensuite, un jour donné, ils vont aller, on va dire le binôme de l'EPSM de l'agglomération lilloise, va aller auditer les pratiques de la clinique privée à but lucratif de Flers en Escrebieux, à côté de Douai, gérée par Ramsay. Les portes s'ouvrent. L'adhésion à la fédération veut dire qu'on, naturellement, on accepte aussi, si vous voulez, ce principe d'échange. Bon. Donc, il y a une diapo, mais je ne l'ai pas prise aujourd'hui, où on voit véritablement, si vous voulez, ce mélange, ce croisement. On a des gens de Boulogne qui vont à Fourmies, on a des gens de Lille qui vont à Douai. Et ensuite, naturellement, toutes les données sont analysées par le personnel de la fédération. Et il y a le retour au cours d'une demi-journée scientifique. Naturellement, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'un an ou deux ans après, nous refaisons un audit sur le même thème pour voir si le premier audit apportait ses sources, s'il y avait des dysfonctionnements, s'il y avait des choses à améliorer, si vous voulez, eh bien le deuxième audit permet de voir si la fédération a servi à quelque chose. Vous savez, moi, les gens qui me connaissent savent que je suis souvent une vieille rebelle et je préfère avoir, si vous voulez, des corrections venant par moi-même que j'ai choisi plutôt que d'avoir quelque chose qui arrive d'en haut. Mais ça, je revendique ce caractère à mon âge, je ne changerai plus. Et puis, l'un des tout premiers audits que nous avons fait, c'était sur la mise en isolement, à l'initiative d'un usager. Donc, nous avions un usager qui a dit, moi, j'aimerais bien faire, je sais que M. Robillard était très intéressé, j'aimerais bien faire. Donc, dès 2008, nous avons fait ce premier audit. Hein. On a fait un retour lors d'une journée scientifique. Naturellement, les dysfonctionnements qu'on peut, si vous voulez, constater sont tous anonymisés. Hein. On ne va pas dire là, ils font ça, ils font... Bon, tout est anonymisé, mais on s'est quand même aperçu que dans un certain nombre de cas, des personnes étaient mises en isolement et puis que les services de sécurité de l'établissement n'étaient pas prévenus. Donc, s'il y avait le feu, la personne restait en isolement. Donc, vous voyez, c'est des choses basiques, mais qui peuvent être fondamentales quand même quand un accident arrive. Donc, nous avons fait le retour au cours d'une demi-journée scientifique, et puis deux ans après, nous avons refait, naturellement, un audit pour voir si les choses qui étaient véritablement améliorées avaient été améliorées ou pas améliorées du tout. Nous avons fait aussi un audit sur la prise en charge somatique du patient psychiatrique, avec effectivement, là aussi, deux ans après, une correction pour voir est-ce qu'effectivement l'IMC était bien relevé, est-ce qu'il y avait une prise de tension systématique, enfin, les choses basiques, j'oserais dire, hein, là, mais malheureusement, qui n'existaient pas toujours dans les dossiers. Alors, comme je vous disais, l'organisation de quatre demi-journées scientifiques sur un thème donné, ça peut être un retour d'audit, mais ça peut être aussi la prochaine demi-journée scientifique va avoir lieu à Calais. Je vous assure qu'elle était prévue déjà depuis un an, c'est sur psychiatrie et précarité, parce que Calais avait mis en place une équipe mobile de longue date, si vous voulez, une équipe mobile dédiée à psychiatrie et précarité. Bon, il s'avère que dans le contexte actuel, c'est plus que pertinent. Alors, cette demi-journée est toujours organisée dans un établissement adhérent. C'est aussi l'occasion de se connaître, de connaître aussi les structures des uns et des autres. Hein. Et ensuite, nous avons, toujours à Lille, là, par contre, chaque année, une journée scientifique. Là, donc, cette année, c'était sur ce qu'on a appelé continuum, c'est-à-dire le passage de l'adolescence à l'âge adulte, hein, donc cette tranche des 18-25 qui actuellement, ou des 15-25 qui actuellement est souvent problématique. Et nous avons eu plus de 525 personnes avec des intervenants, à la fois régionaux, mais aussi de toute la France, Philippe Jamet, Madame Pupper, professeur Malcher de Liège, etc., etc. Et puis, si vous voulez, l'amélioration, bien sûr, de la visibilité des dispositifs sanitaires. L'un des tout premières choses que nous avons fait, c'est l'annuaire régional des CMP. Donc, vous habitez un petit village, on va dire la Sentinelle. Personne ne connaît, c'est dans le Valenciennois. Vous tapez la Sentinelle sur Internet et vous allez avoir les CMP avec les heures d'ouverture, les intervenants, etc., qui apparaissent. Pour les médecins généralistes, c'est naturellement, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les médecins généralistes sont aussi les premiers interlocuteurs. Pour les médecins généralistes, c'est extraordinaire, naturellement. Bon. Et puis, si vous voulez, nous nous sommes dit aussi... pour changer ce regard de la société française en particulier sur le malade psychiatrique, la première des choses, c'est aussi de changer les mots des journalistes. Parce que, bon, dans le monde, je dis souvent, dans notre société d'aujourd'hui, le journaliste, il est devenu un peu le prolongement de l'instituteur, malheureusement. C'était important aussi de travailler avec la journaliste. Et nous avons pu nouer, dès décembre 2013, nous avons passé une convention avec l'École supérieure de journalisme de Lille, de telle sorte qu'il y ait en première année de l'ESJ de Lille un module obligatoire avec des valences sur la psychiatrie. Et donc, nous avons fait ça de façon un peu... amusante et ludique, entre guillemets. Il y a bien sûr un senior qui est un psychiatre, bon, tout à fait établi de longue date, mais c'est l'occasion, ça se fait sous la forme de rencontres entre des internes en psychiatrie et des étudiants de psychiatrie, parce que là, on est dans la même génération. Donc, on a les mêmes mots, on a parfois les mêmes interrogations, on a parfois les mêmes a priori sur un patient. Et nous avons également pu mettre en place une formation continue, là, pour les journalistes en poste, et nous avons eu la chance d'avoir des journalistes qui venaient à peu près de toute la France, de Lyon, de Paris, de Strasbourg, et des journalistes locaux. Et naturellement aussi pour eux, si vous voulez, quand il y a un problème de psychiatrie, eh bien ils ont des interlocuteurs privilégiés avec des numéros de téléphone, les psychiatres ou les étudiants parfois ont accepté, plutôt au niveau chef de clinique, ont accepté de donner leur numéro. Comme ça, quand il y a un problème, eh bien ils vont avoir au moins un recours et pas écrire tout et n'importe quoi. On se bat aussi pour que des mots comme une société schizophrène, un élu autiste, etc., qui a toujours une connotation, c'est pas pour vous, qui a toujours une connotation négative, si vous voulez, pour que ces mots changent enfin. Bon. Donc voilà, comme vous le voyez, quand je parle, je parle. Puis bien sûr, elle favorise le... Elle contribue à l'action de santé publique. Alors, soutien aux projets de recherche menés dans les établissements. Nous sommes avec le CHRU de Lille, c'est ce que je vous disais, de la paillasse au terrain, sur des projets afin d'améliorer la compréhension, tester des thérapies nouvelles pour les hallucinations complexes. Nous faisons naturellement des accompagnements méthodologiques, puisque bon... j'ai oublié de vous dire, donc le directeur fait partie du CPP. Nous avons bien sûr des accords dès le départ avec la CNIL, etc. etc. Donc, des accompagnements méthodologiques pour des projets ou des thèses. Parmi les thèses que nous avons aidées, la mise en place d'un observatoire régional de la contention, la santé psychique des médecins généralistes, c'était très, très intéressant. Aussi des praticiens hospitaliers et psychiatries, ça fait l'objet là d'un retour. C'était un jeune médecin généraliste qui travaillait dans un service de psychiatrie et qui avait été parfois un service de psychiatrie très éloigné, si vous voulez, de la métropole lilloise, où pendant des années, le chef de secteur avait porté son secteur avec simplement 1,5 équivalent temps plein en plus. Elle avait été étonnée de constater une certaine forme de burn-out, et elle a donc fait au niveau régional une étude sur le burn-out des psychiatres. Santé psychique des médecins généralistes, c'était une thésarde de médecine générale. Évaluation des équipes mobiles, etc. Animation de projets régionaux. Alors, bien sûr, nous avons le projet PSIMAC, c'est mettre en lien les neuroradiologues et les équipes de psychiatrie de telle sorte de mettre en place, si vous voulez, un processus pour... quand on suspecte une pathologie psychiatrique, eh bien, d'emblée, on fasse une radiologie, une IRM, enfin de la radiologie, pardon, une IRM, mais spécifique, avec naturellement un contexte tout à fait particulier. De telle sorte d'avoir une base de données régionale pour les premiers épisodes hallucinatoires. Il y a une étude aussi qui s'appelle MOBSI, c'est l'état de santé des personnes souffrant de maladies mentales dans la région. Nous sommes aussi en train de faire une étude sur l'état psychique des personnes qui sont en prison actuellement. Là, ce sont surtout des psychologues qui sont dans les services de psychiatrie, qui se sont emparés de ce projet. Voilà, alors ensuite, évaluation d'action et programme. Bon, naturellement, l'évaluation de vigilance. Là, nous avons la chance dans la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir un directeur d'ARS là, qui est très, très, très attentif aux problèmes de santé mentale et de psychiatrie. Et j'oserais dire que nous avons de très bons rapports avec lui. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Vous voulez combien de sous ?» J'ai dit « Je ne veux rien du tout, surtout. » Il m'a dit « On va bien s'entendre. » Donc, c'était très bien. Mais pour autant, il nous donne aussi, si vous voulez, parfois des programmes à évaluer. Et puis ensuite, ce que je vous disais, l'évaluation de programmes de recherche nationaux, un chez soi d'abord, qui était un PHRC qui est là, géré par le professeur Girard à Marseille, mais qui se développe dans plusieurs régions. Et au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, nous sommes chargés d'en faire l'évaluation. Et puis le programme Papageno, qui est un autre programme, si vous voulez, là aussi à destination des journalistes. C'est-à-dire que quand il y a... nous avons pu travailler avec les journalistes de la région Nord-Pas-de-Calais... au départ, et actuellement c'est en train de se développer dans toute la France, pour que lorsqu'un suicide apparaît, on fasse attention, si vous voulez, aux mots, c'est-à-dire que pour éviter cet effet Werther de reproduction, on le sait que quand Robin Williams, quand Marilyn Monroe, bien d'autres, voire dernièrement un jeune étudiant à Lille qui s'est jeté d'une passerelle pour se suicider, eh bien, pour des personnes qui sont en situation de fragilité, naturellement, il peut y avoir un phénomène de reproduction en disant lui, on a parlé de lui, moi, j'ai raté ma vie, c'est peut-être l'occasion d'eux. Et donc, on essaie de travailler avec les journalistes pour qu'ils ne soient pas dans l'événementiel, mais pour essayer de faire comprendre que le suicide n'est pas une solution et qu'il y a peut-être des ressources. Donc systématiquement maintenant dans la région Nord-Pas-de-Calais, quand il y a un suicide, il y a un petit encart à côté avec tous les numéros ressources qui font que la personne qui a des idées suicidaires, qui finit par comprendre que les idées suicidaires ne sont pas des idées normales, puisse trouver rapidement un numéro de téléphone à appeler. Alors, nous sommes aussi la Fédération est adhérente de l'Observatoire franco-belge de la santé. Bon, pour un autre mandat électif, je m'occupe depuis 1997 de la coopération franco-belge entre hôpitaux. Et donc, l'Observatoire franco-belge de la santé est un groupement économique d'intérêt européen qui est l'interlocuteur de la communauté européenne pour les projets Interreg. Et donc, nous avons sollicité notre adhésion à l'OFBS. Nous l'avons. Nous sommes actuellement en train de travailler. La première étape est franchie. Les projets Interreg sont toujours des projets qui sont compliqués. Mais nous avons franchi la première étape pour être porteurs d'un projet qui s'appelle c'est-à-dire des adolescents en situation complexe. Donc là, la fédération est partenaire du gouvernement de la communauté française et en particulier de la province de Namur pour travailler sur ce projet-là. C'est aussi, si vous voulez, nous avons aussi travaillé dans le cadre d'Interreg sur un projet qui s'appelait le médicament transfrontalier. Vous savez que dans les zones frontalières, il y a parfois des deals de Subutex et nous avons pu travailler avec les communes là, de Belgique et le CCAS de Roubaix sur ce projet-là. Alors, nous sommes aussi membres du comité de pilotage de l'Observatoire national du suicide. Nous sommes membres fondateurs de l'espace de réflexion éthique régionale du Nord-Pas-de-Calais. Alors, suite à l'audit justement sur l'isolement, nous avons, à l'époque, nous travaillions pas mal aussi avec le barreau de Lille et le bâtonnier d'époque nous avait dit, mais enfin, finalement, l'hôpital psychiatrique, c'est un des établissements où nous, avocats, nous avons le plus de difficultés à rentrer. Ça nous a fait réfléchir. Et donc, dès 2010, avant même que les décret sur les espaces régionaux de éthique ne sorte, si vous voulez, nous avons décidé de créer l'espace de réflexion éthique pour les soins en psychiatrie dans la région Nord-Pas-de-Calais. Nous faisons une réunion à peu près 4 fois par an. Par principe, l'intervenant est toujours quelqu'un qui n'est pas du monde de la psychiatrie. C'est comme ça que nous avons eu la joie d'accueillir dès janvier 2015. Oui. Monsieur Robillard, mais nous avions accueilli Monsieur Delarue, nous avons eu Jean-Paul Delevoye, nous avons eu le professeur Dupuis, qui est un philosophe belge qui s'intéresse beaucoup à ce qui est bien-traitance, etc. Nous avons eu aussi, nous avons fait une réunion sur le transhumanisme, c'est très à la mode. Hein. Donc voilà, et comme dit le directeur de la FEDE, c'est l'occasion de parler de sujets qui fâchent, eh bien, sans se disputer de trop, et c'est nous avons en moyenne entre 200 et 300 personnes. Nous avons fait aussi une réunion sur le suicide selon les religions, hein, avec le représentant de l'archevêque, du rabbin, le rabbin de Lille, l'imam, etc., etc. C'est vraiment des choses qui sont qui nous permettent d'échanger, hein, sur des problèmes à la base, problématiques de psychiatrie, mais qui font venir des intervenants extérieurs, et c'est souvent aussi très intéressant. Ce qui nous a permis naturellement, quand les décrets sont sortis et ont créé les espaces de réflexion éthique, ce qui nous a permis de rentrer d'emblée dans le comité de pilotage. Nous sommes bien sûr, je vous en avais parlé, partenaires de l'École supérieure de journalisme de Lille, hein, et nous avons été sollicités pour faire partie du centre de preuve de la chaise. Alors voilà la conclusion. Bon, cette fédération a été imaginée et portée par un groupe d'entêtés. Voilà, j'en étais. Vous choisissez, il n'y en a pas avec des lunettes, mais bon. C'est-à-dire 2 ou 3 psychiatres et universitaires. Hein, et je dois rendre hommage d'ailleurs au professeur Goudemant, qui était le prédécesseur de Pierre Thomas, et qui a accepté dès 2007 que, effectivement, la recherche, bien sûr la recherche épidémiologique, bien sûr l'amélioration des pratiques. Il ne s'agissait pas, comme je vous le dis dès le départ, de faire de la recherche fondamentale, même si on est parfois partenaire, qui a accepté donc que la recherche sorte du milieu universitaire. Donc 2 à 3 psychiatres et universitaires, 2 à 3 directeurs d'établissement, hein, l'UNAFAM 59-62 avec donc Bertrand Esquègue, et bien sûr le soutien du groupe psychiatrie de la RH 59-62, que j'ai eu le bonheur et la joie d'animer pendant plus de 8 ans, puisque le premier directeur général de la RH, qui était Gérard Dumont, avait voulu qu'il n'y ait qu'un seul groupe qui soit l'interlocuteur de la psychiatrie dans les établissements. Et c'est fondamental, parce que si naturellement la psychiatrie dans un EPSM, le problème ne se pose pas, dans un hôpital général, que les psychiatres défendent, si vous voulez, une voiture pour permettre à l'infirmier d'aller faire des visites à domicile par rapport à un matériel d'endoscopie qui va rapporter en termes de T2A, c'est pas toujours évident. Et c'était donc fondamental qu'il y ait un même groupe, un même interlocuteur pour la totalité des établissements, de telle sorte que effectivement les problèmes de psychiatrie soient appréhendés de la même façon. Nous avons été aussi l'interlocuteur pour les cliniques privées. Et bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, le directeur général, s'il n'y avait pas eu effectivement Gérard Dumont pour faire de la psychiatrie une priorité régionale au même titre que la cardio et que la cancérologie, rien n'aurait pu se faire. Quand j'ai quitté l'agence fin 2005, donc au bout de 8 ans, nous avions quand même pu investir 50 millions d'euros dans la psychiatrie, bien sûr, hein, sur 8 ans, mais quand même, c'était quand même très très important. Et comme nous avons, si vous voulez, nous avons fermé des lits, et des lits papier, avec l'accord des professionnels. Nous avons fermé à peu près 500 lits dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais nous avons ouvert 300 places d'alternative à l'hospitalisation, que ce soit des hôpitaux de jour, que ce soit des CATTP. Nous avons créé aussi des postes cure. Il y a vraiment une dynamique qui s'est mise en place. Et comme je vous disais tout à l'heure, pratiquement 90% à peu près, parce que bon, il y a naturellement des projets immobiliers qui ont pris du retard, mais 90% avaient vu leur mobilier rénové. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, il faut toujours anticiper. Si on n'anticipe pas, on ne stagne pas, on recule. Ça a toujours été mon principe. Donc déjà, depuis un an, nous travaillons sur l'entrée, entre guillemets, hein, des établissements Picard. Hein, nous avons rencontré les universitaires, nous avons rencontré les directeurs, nous avons rencontré les présidents de CME. Et puis, nous avons déjà, depuis un mois, une demande d'adhésion d'un établissement Picard, avant même que la grande région n'existe. Bon, et j'espère que nous en aurons un deuxième ou un troisième. Voilà, voilà, je vous remercie.
Oui, donc merci beaucoup, docteur. Monsieur Robillard, est-ce que vous avez des remarques à ce stade ou des questions? Alors, il y a une précision.
Oui, il y a une petite précision. J'ai oublié de dire que la cotisation peut se faire sous forme de mise à disposition. Le directeur de la fédération, qui est un psychiatre HDR, etc., qui est au CHU, est mis à disposition. Et donc, les 0,60 équivalents temps plein correspondent à la cotisation du CHRU de Lille. Je crois que ça, c'est aussi important de le dire. Alors, je disais à mon voisin tout à l'heure, nous avons, nous, commencé, parce que c'est vrai que nous voulions être totalement autonomes, hein, mais nous avons commencé avec des chaises qui nous ont été données par la CRAM qui renouvelait son mobilier, des ordinateurs qui, là aussi, ont été donnés par un établissement qui renouvelait son parc informatique. Donc, on a vraiment commencé, mais on voulait vraiment commencer. On voulait rester, je voudrais dire... autonome, et on a vraiment commencé dans... On a eu la chance aussi d'avoir du personnel qui était extrêmement motivé, hein, au niveau qui n'était pas ceux qui étaient psychiatres. Et c'est vrai qu'on a commencé vraiment avec les moyens du bord, comme on dit.